Père Michel Martin Prével, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des familles monoparentales.
Voilà, oui. Alors, on comprend bien ce que ça veut dire parce que le mot est tout de même assez explicite. Monoparental, ça veut dire que on est défini comme des familles où il n'y a qu'un seul parent. C'est souvent d'ailleurs un parent qui, sans doute, se retrouve seul à éduquer des enfants. Alors, nous allons voir un peu toutes ces situations qui sont d'ailleurs assez diverses. Alors, c'est vrai qu'on peut déjà considérer que ce n'est pas des familles, comme on pourrait dire, qui sont à montrer du doigt, et des familles qui n'existeraient que parce que c'est comme par défaut. Il vaut mieux les voir comme des familles qui ne sont pas dans la perfection, mais justement, notre monde doit quitter cette idée de chercher la perfection. C'est toujours légitime de construire une famille avec des buts merveilleux, hein, qui correspondent en principe à des êtres parfaits. Mais nous ne sommes pas des êtres parfaits, et en réalité nous vivons dans une famille qui est ce qu'elle est. Ce qui ne veut surtout pas dire que ça nous détourne de pouvoir y vivre avec de la sainteté. Parce que la sainteté, c'est bien autre chose que la perfection. Donc ces familles-là, on va dire que c'est des familles qui ne sont pas parfaites, mais il y en a tellement d'autres. Alors voilà déjà une première remarque. Une deuxième remarque, c'est que de fait, on est dans une société qui manifeste beaucoup d'ambiguïté. Parce que le fait que le droit est là pour soulager des misères particulières, et en particulier, c'est très important, va pouvoir aider des familles qui vivent cette épreuve d'être monoparentales. Mais en même temps, parce que ce droit existe, on a l'impression qu'on encourage en même temps le développement de ces structures familiales imparfaites. Vous voyez donc, c'est là qu'il y a une ambiguïté. En réalité, nous sommes bien sûr entourés de tas de gens qui sont dans des situations qu'ils n'ont pas choisies. Alors, les divorces sont souvent subis, pas toujours, mais très souvent subis. Il y a aussi des deuils qui font que des parents se retrouvent seuls avec leurs enfants. Il y a des maladies, des accidents impromptus. Il y a aussi quelquefois des évolutions psychiques chez certains qui deviennent très pénibles et qui demandent des séparations du côté des parents. Voilà pourquoi on se retrouve souvent un parent seul. Mais Dieu ne va pas nous évaluer sur la qualité de notre famille. Nous ne sommes pas là-dessus comme des familles différentes des autres, mais nous serons toujours jugés sur la façon dont nous avons vécu notre situation concrète. On subit sa race, on subit sa culture, on subit aussi sa famille, comme des invariants sur notre chemin de sainteté. Et nous savons que ce sont justement dans cette pauvreté que le Seigneur nous retrouve d'autant plus, comme les prostituées, les collecteurs d'impôts de l'Évangile, dont Jésus nous dit qu'ils vont nous précéder dans le royaume. Et donc, être dans une famille qui n'est pas tout à fait celle que l'on aurait voulu ne doit pas nous disqualifier, je dirais, sur ce terrain de la sainteté. Et il en est de même pour les enfants qui, eux, peuvent vivre dans des familles qui, eux non plus, n'ont pas choisi. Et pourtant, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut penser de cela. Comment des enfants peuvent parfaitement aussi se développer dans ces mêmes familles-là. Il y a des divorcés qui sont abandonnés par des maris indélicats. Eh bien, nous allons en parler. Qu'est-ce qu'il faut ? Comment vivre cela ? Des enfants qui sont dans des familles recomposées, qui n'ont rien demandé. Des homosexuels qui sont dans leur souffrance, sans la comprendre souvent. Voilà, mais le Seigneur s'adresse à tous. Alors, comment ça se passe au plan sociologique? On peut dire qu'il y a tout de même aujourd'hui, en France en tout cas, il y a 20% des familles françaises qui sont monoparentales. Et dans ces familles où il n'y a qu'un seul parent, 85% d'entre elles, c'est avec une maman toute seule. 85%. Alors, n'oublions pas que ça peut être ces familles-là, ça peut être des familles, bien sûr, qui sont celles qui suivent la mort d'un des conjoints. C'était assez courant autrefois, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche, on avait des hommes qui restaient seuls avec des enfants. Mais justement, ils se remariaient très souvent. C'est d'ailleurs ce qu'on peut constater, c'est qu'un homme resté seul refait très souvent sa vie. Et donc, sa famille ne reste pas longtemps une famille monoparentale, elle va devenir une famille recomposée. Alors, nous en parlerons la prochaine fois. C'est une autre question, les familles recomposées. Mais très souvent, donc, c'est une mère qui reste seule. Alors, la cause, ça peut être la mort, bien sûr, ça peut être aussi un accident, quelque chose qui arrive, une rupture. Mais très souvent, la rupture du lien conjugal, c'est le fait d'un échec de cette relation conjugale. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus souvent aujourd'hui le divorce qui provoque, autrement dit, qui fait naître des familles monoparentales. Alors, c'est bien sûr toute la question du divorce dont il ne faut pas dire qu'il faut le tolérer, parce qu'à le tolérer, on finit par l'accepter trop facilement, et quand on l'accepte, on finit par l'approuver. Donc, il ne s'agit pas d'être là, parce que nous sommes dans un monde où l'amour est très hédoniste, et cet amour qui est très fragilisé aujourd'hui dans le mariage se traduit par des ruptures beaucoup plus nombreuses. Dans les villes, on est à plus de 50% de divorces. Voilà, donc ça, c'est la réalité. Alors, je dis que ces familles monoparentales, très souvent, c'est donc des mamans qui restent seules pour élever les enfants. Et elles assument cela souvent avec beaucoup de courage. Ce sont un peu ces mères courage qui doivent à la fois travailler, nourrir les enfants, il faut assumer l'école, les déplacements, les activités, les loisirs, de tout ce petit monde. Et ça, pour moi, il y a vraiment de la sainteté chez beaucoup de ces mères courage, ces femmes qui, pas toujours abandonnées par leur époux, quelquefois elles ont pu choisir de se séparer de lui pour des raisons importantes, mais en tout cas, elles souffrent même quelquefois en plus de beaucoup d'incompréhension. Elles n'ont pas toujours, malheureusement, l'aide qu'il faudrait leur apporter. Mais bien sûr que c'est l'absence du père pour ces femmes-là qui est très douloureux, et elles sentent bien, contrairement à ce qu'on peut dire, que l'éducation, ça marche beaucoup mieux quand il y a un père et une mère. Voilà, ça c'est un fait. Voilà donc, c'est surtout des pauvres, hein, souvent, et d'ailleurs économiquement, dans ces familles, on a facilement 20 ou 30% moins de ressources que dans d'autres familles. Ce sont les pauvres d'aujourd'hui, c'est quelquefois les pauvres de notre temps. Et en plus, elles peuvent être culpabilisées d'avoir brisé un couple, et puis aussi, au passage, de faire souffrir leurs propres enfants de cette situation-là. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en constatant un peu ce qui se passe dans ces familles ? On peut dire que du côté des enfants, il y a de fait aussi cette souffrance de ne pas voir leur père ou de le voir insuffisamment. Pour certains enfants, il y en a la moitié qui ne voient plus du tout leur père dans ces familles où c'est la maman qui est restée. Hein. Et puis pour d'autres, c'est quelques jours par an. Donc c'est vraiment un déficit de la relation au père. Alors, moi, je constate que la majorité de ces enfants arrivent à se construire malgré cela, parce qu'ils ont une certaine résilience. Ils savent s'y habituer, autrement dit. Ça ne veut pas dire que c'est une raison pour favoriser cette situation où la famille reste, bien sûr, incomplète. On voit dans ces familles monoparentales où c'est la mère qui est celle qui reste, le seul parent, ce serait la mère. Dans ces familles-là, il n'y en a que la moitié actuellement. Il n'y en a que la moitié qui choisissent de se remarier. Et donc, dans ce sens, de changer un peu la configuration de leur famille. Pour les autres, soit elles n'ont pas eu l'occasion, ou pas encore l'occasion de se remarier, soit beaucoup plus souvent, ce sont des femmes qui choisissent de rester fidèles à leur conjoint, de ne pas refaire leur vie. Refaire sa vie, c'est une expression un peu curieuse pour moi au passage, mais enfin voilà, elles restent fidèles en tout cas à ce qu'elles ont pu vivre. Elles savent que ce n'est pas facile de repartir dans une nouvelle union. Elles se disent aussi que des secondes noces sont souvent plus fragiles que les premières, parce que ça, c'est aussi un constat. Et alors, elles vivent cette réalité qui est à la fois plus complexe, mais dans laquelle elles arrivent tout de même à vivre l'essentiel des valeurs auxquelles elles croient. Et ce sont souvent des femmes qui ont un très grand souci, beaucoup plus que d'autres, d'élever leurs enfants avec justement de bonnes valeurs. Donc ces enfants, c'est clair qu'il faut dire qu'ils souffrent, ils ont comme une sorte de déficit un peu comme ça au départ dans leur vie. Dans les salles de classe, les professeurs le voient ça. Un enfant qui n'a pas ses deux parents, il a pour ainsi dire quelquefois ou très souvent, il a un certain déficit. Mais pourtant, c'est des enfants, je dirais, qui savent réagir. C'est des enfants qui se... Et ça, c'est la nature qui fait que l'enfant va aussi trouver des substituts. S'il n'a pas de présence de père dans sa vie, il va en trouver avec son grand-père, avec un prêtre, un chef scout, etc. Donc, ces enfants-là, ils souffrent de fait. Et pourtant, cette famille dont on parle, cette famille monoparentale, eh bien, il faut qu'elle vive dans la réalité de ce qu'elle est. Voilà. Il y a une sorte de croix à assumer. Et de fait, c'est là aussi que je vois que le Seigneur est très présent, d'autant plus présent que justement subsiste cette pauvreté-là. Alors, maintenant, comment fait-on pour être un parent seul? Parce qu'on peut dire, oui, vous êtes bien gentil, mais tous les jours, ce n'est pas facile. Rester un parent seul, c'est un combat quotidien qu'il va falloir mener avec une certaine force, avec beaucoup de foi, en gardant de l'espérance. Et l'attitude juste de ce parent seul, c'est de ne pas dénigrer l'autre parent, s'il existe encore, s'il est loin. Il y a même, en gardant la tête haute, je dirais, en gardant cette sagesse de croire que l'on a une grâce d'État pour vivre ce que l'on vit. C'est comme ça que ça fonctionne. Du côté de Dieu, cette grâce d'État, c'est une grâce qui est donnée à celui qui est dans une situation difficile et qui, dans cette situation difficile, reçoit comme une grâce liée à ce qu'il est en train de vivre. Ça s'appelle la grâce actuelle, c'est-à-dire liée aux actes de la vie, à ce que je dois vivre aujourd'hui. C'est pas une grâce pour donner pour après, c'est une grâce qui est donnée pour chaque jour. Ça s'appelle la grâce d'État. Et je vois cette grâce d'État qui est très très à l'œuvre dans ces familles où il y a un parent tout seul. Alors s'il y a eu de la souffrance, parce que quand on est divorcé, il y a toute une souffrance qui est là aussi, une déchirure qui fait que le parent est seul et il n'a pas le secours d'un compagnon sur qui s'appuyer. Il y a donc un amour à vivre autrement, un amour qui se déplace d'ailleurs suffisamment sur les enfants, puisqu'il n'exerce plus vis-à-vis d'un conjoint. Mais cette fidélité du parent, cette fidélité, je dis bien, à sa condition, à continuer, autrement dit, l'œuvre qui s'appelle la famille, que l'on a fondée à deux, à un moment donné, et tout d'un coup, on se retrouve tout seul. Et je crois que cette fidélité-là, c'est un témoignage, c'est une aide puissante pour l'enfant et aussi pour l'entourage. Parce que si le parent seul devait être déficient à nouveau, alors je dirais que c'est la double peine pour les enfants, alors que la façon de rester fidèle, encore une fois, à cette famille qui a été fondée, en continuant à élever ses enfants de façon seule, eh bien ça, c'est un très beau témoignage. Et voyez, c'est ça la grâce d'État. C'est parce que j'assume ce que je dois faire que j'ai aussi la grâce pour le vivre. C'est un combat de tous les jours. C'est quelquefois le combat dans la chasteté. On n'a plus ce rapport à l'autre. Il faut vivre ça sans doute dans la prière, dans la persévérance. Et je répète que cette grâce de la fidélité de son père ou de sa mère qui est resté seul, ça renforce chez l'enfant le désir d'un amour vrai et fort. C'est une sorte de souffrance qui porte du fruit parce qu'elle devient un tremplin pour la vie de l'enfant, et elle est aussi une source d'espérance. Alors, je reviens sur cette idée que si on est un parent seul, il y a, on ne peut pas évacuer tout à fait l'autre, surtout s'il voit encore les enfants de temps en temps. Il faut lui faire bien entendu sa place. Ça veut dire respecter l'autre conjoint, s'interdire de le dénigrer, par exemple. Je crois qu'on peut aller jusqu'à lui pardonner, et quand les enfants savent cela, ça les constitue de façon très forte. C'est un modèle d'éducation qu'une maman comme ça, qui reste seule pour élever ses enfants, c'est un véritable modèle d'éducation quand elle reste dans la fidélité, dans le pardon. Donc ça, c'est une situation qui est peut-être pas très courante, mais qui est si importante à valoriser. Et pour l'autre conjoint qui est parti, qui n'est plus là, et voir peut-être aussi c'est celui qui est mort, qui n'est pas là, eh bien, il y a toujours une vérité à faire sur l'autre. Alors cette vérité, on ne la fait pas de façon crue vis-à-vis de ses enfants. Et il faut la faire au moment voulu, en particulier quand les enfants vont grandir. Il s'agit d'être vrai par rapport à cette relation avec l'autre conjoint. Mais sans enfoncer l'autre, c'est reconnaître certaines de ses défaillances, puisqu'on est arrivé à lui pardonner, c'est qu'on les a reconnues. Et avant que l'enfant soit complètement adulte, c'est important qu'il connaisse la façon dont on se situe par rapport à l'autre conjoint. Voilà. Et ça, vous voyez, ça brise quelque chose qu'on pourrait, une fatalité que les enfants pourraient subir. Ils ne savent pas vraiment comment leurs parents ont vécu ça. Et bien, je crois que c'est leur voler quelque chose qui appartient à leur identité. Voilà. Ce n'est pas, encore une fois, relever tout ce qui ne va pas, c'est certainement dire la vérité. Et au moment où il faut, surtout au moment où il faut. Alors, pour être un parent seul, il y a aussi peut-être quelquefois un défaut, quelque chose auquel il faut faire attention, c'est que l'enfant ne peut pas remplacer le conjoint absent. Parce que ça, c'est lui faire jouer un rôle qu'il ne doit pas jouer. Ça ne lui fait pas du bien. Parce que c'est comme chercher une compensation. On voit des mères qui font jouer au fils aîné un rôle qui est presque celui du maître de maison. Il prend sa place à table comme un petit maître. Voir quand il est plus petit, ça peut être on le prend dans le lit. Tout ça, ce n'est pas des situations ça peut créer des troubles profonds. Parce que l'enfant n'est pas un objet de remplacement. Il faut le respecter comme enfant en lui-même. Voilà. On ne peut pas non plus prendre l'enfant comme un confident de toute notre peine, le prendre comme un témoin de la vérité sur l'autre conjoint, parce que ça ne lui appartient pas. Mais en tout cas, éviter l'accusation de l'autre parent. Ça, c'est très important, parce que lui n'a pas choisi ça, il est absolument l'enfant d'un père et d'une mère, et cette différence père-mère qui ne se vit pas concrètement au foyer, eh bien, il s'agit de la faire vivre dans le cœur de l'enfant. C'est pour ça en particulier qu'il faut peut-être encore continuer à lui dire tout ce qu'était l'autre, en tout cas dans ses qualités positives, qu'il faut savoir reconnaître, parce que ça lui fait du bien. Que ce soit encore une fois un père ou une mère. Alors, bien sûr que ce n'est pas facile au quotidien, parce qu'il reste ces difficultés réelles, pour une mère en particulier qui doit se séparer de son enfant. Et c'est souvent le père, vous savez, qui joue ce rôle séparateur du couple mère-enfant. Et quand le père ne fait pas cela, on voit que cette mère qui continue à avoir beaucoup trop d'influence sur son enfant. Et parce que le père n'est pas là, bien sûr, je crois que la mère peut aussi jouer le rôle du père, mais justement en étant consciente qu'elle doit vivre cette séparation de son enfant. Vous voyez, quand l'enfant grandit, surtout à l'adolescence, il faut qu'il connaisse cette séparation de sa mère. Et ça, il faut que la mère y participe. Il ne faut pas qu'elle garde une autorité dont elle a besoin à certains moments, mais ce n'est pas une autorité qui doit s'imposer en permanence et laisser l'enfant justement grandir et faire sa propre vie. Parce que l'enfant ne nous appartient pas. Voilà. Alors, dans ces familles-là, je dis, répète qu'il y en a pour certaines où le père ou la mère n'est plus là. Il y a un des parents qui n'est plus là du tout parce qu'il est mort ou parce qu'il est complètement sorti de la vie. Ça peut arriver. Mais dans la plupart des cas, il reste un rapport, même si c'est un rapport un peu distendu. Et alors, être parent seul ne doit pas oublier que l'on est encore des parents ensemble. Voilà. C'est être parent avec un autre qui n'est pas là la plupart du temps. Ça veut dire qu'on n'est plus époux, mais qu'on reste parent. Alors c'est là qu'il y a une difficulté, c'est de vivre effectivement toujours cette relation parentale. Parce que cette première alliance n'est plus vécue, elle doit céder la place à un autre type de relation, qui est une relation non plus conjugale, mais une relation parentale. Et quand il n'y a pas ce couple parental, et vous voyez, la loi civile fait cela, la loi civile favorise le maintien du rapport avec les deux parents. Vous voyez, la loi civile, elle est juste à ce niveau-là, et on ne doit pas, même si l'autre parent est peut-être un peu déficient, voire un peu indigne, il y a sans doute une protection qu'il faut rechercher, mais en même temps faire jouer ce jeu du rapport entre parents pour le bien de l'enfant. Voilà, et alors quand le père ne vit pas dans l'habitation principale, eh bien souvent on voit ce père qui change, il n'a pas toujours un rôle facile. Mettons-nous de son côté, celui qui n'est pas là, celui qui n'a pas l'éducation des enfants au quotidien, il est un peu quelquefois trop le papa cadeau qui va chercher à se faire aimer parce qu'il a peu de temps pour être avec ses enfants et il n'aura pas souvent cette intelligence de rester celui qui garde une certaine autorité sur l'enfant. On voit des mères qui souffrent beaucoup de cela, j'en connais beaucoup, où le père ne joue plus son rôle de père parce que justement il n'est pas dans le quotidien pour reprendre ce que font les enfants d'un peu tordus. Alors c'est la mère qui malheureusement ne fait plus que cela. Alors voilà, ça ce sont des distorsions où les parents justement ne sont plus dans leur rôle, chacun doit garder son rôle. Et ça, pour ça, il faut tout faire pour sauver le couple parental. Ça veut dire maintenir des relations apaisées, voilà. Quand les divorcés ne vivent plus ensemble, par définition, c'est pas pour autant qu'ils peuvent prendre quand même sur eux, pour les petits temps où ils ont à se parler, et notamment se parler à propos de l'enfant, de prendre vraiment sur eux pour vivre ça dans une bienveillance, dans une complémentarité, à ne pas jouer sur le mensonge, la vengeance, etc., qui non seulement leur fait du mal à eux, d'abord, mais aussi et surtout à l'enfant. L'enfant a besoin de cette exigence de vérité entre ses parents, mais dans la mesure où justement ses parents savent être sages. Être sage, c'est faire passer l'intérêt de l'enfant avant son propre intérêt. Que l'intérêt de la famille passe avant l'intérêt du couple, puisque le couple est dans un état, je dirais, assez détruit. Voilà, sauver la famille, autrement dit, parce que ça, c'est de l'or pour les enfants. Et quand on aime ses enfants, je crois qu'on est capable tout de même d'y arriver. Voilà, en tout cas, jamais prendre l'enfant comme arbitre, vous voyez, parce que lui n'a pas à jouer dans cette décision du divorce, parce qu'on l'enferme dans une tenaille douloureuse où il devient un acteur de ce drame. Il faut qu'il soit à l'écart de ce drame, dans le sens où il n'a aucune responsabilité. Parce que vous savez que les enfants de divorcés, tôt ou tard, et souvent d'une façon très inconsciente, se sentent comme responsables de la séparation de leurs parents. Et ça, c'est tout de même assez impressionnant, de ce renversement. Pour sauver, pour ainsi dire, le couple de leurs parents, ils ont tendance à prendre sur eux, autrement dit, la souffrance de cette séparation. Voilà où ils en sont. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à un accord sur les explications de la séparation, pour que justement ne subsiste pas dans le cœur de son enfant cette sorte de culpabilité qui peut être terrible pour lui. C'est un motif puissant pour garder du dialogue avec l'enfant, mais aussi du dialogue avec l'autre parent. Et je dirais que quand on arrive à une réconciliation, parce qu'il y a du pardon à s'échanger, pourquoi pas, ce qui ne veut pas dire que l'on pense forcément à reprendre la vie commune, mais même quand un divorce est prononcé, déjà vécu depuis quelque temps, il faut travailler à cette réconciliation parce que c'est un bien pour les enfants. Autrement dit, si la séparation est un drame, il faut qu'elle apparaisse comme un possible qui s'est réalisé. Quand on est dans ce réel, alors l'enfant est capable de grandir. Sinon, on repose sur du sable, sur quelque chose qui n'est pas juste. Et donc, pour que l'enfant puisse avoir un jugement bien établi sur sa propre situation, et c'est comme ça qu'il va pouvoir être dans une résilience et se construire. Et quand il y a, voyez, de la violence qui continue au-delà du divorce, au-delà de la séparation, quand il y a des vengeances, des coups bas, etc., ça, c'est le drame absolu. C'est-à-dire qu'on ajoute à la souffrance de la séparation, qui est encore une fois aussi bien pour les parents qui se sont séparés que pour les enfants, on assiste à une augmentation du mal. Voilà. Alors ça, donc, la violence verbale, tout ça, c'est quelque chose qui détruit une deuxième fois, en tout cas, les enfants. Alors voilà où on en est avec cette situation qu'il faut bien accepter. Comment, effectivement, il y a cette grâce qui porte absolument les parents seuls. Je suis frappé de ce qu'un parent seul, finalement, il a sa grâce propre. Si c'est une mère, elle a une grâce maternelle pour faire son travail de parent. Mais je suis frappé qu'elle a aussi une grâce qui s'y ajoute, qui est la grâce du sexe opposé. C'est pour ça qu'une maman seule, elle a des moments où, effectivement, il faut qu'elle fasse le papa. Voilà. Et inversement, un papa doit absolument aussi acquérir cette grâce qui doit être aussi un peu la maman pour ses enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de bizarre, de différent. Il s'agit de compenser parce qu'en nous, il y a du masculin et du féminin. Voilà. Nous ne sommes pas la différence des sexes, ce n'est pas une différence qui se fait dans une rupture, dans une différence absolue. Il y a du masculin et du féminin en nous. Voilà pourquoi un parent seul, je dirais que ça marche encore. Voilà. Un peu comme, vous savez, les handicapés, un manchot, il n'a plus qu'un bras, mais c'est impressionnant comme le bras qui lui reste devient capable de faire beaucoup plus de choses que s'il avait été en compagnie d'un autre bras. Quand on a deux bras, on réserve un peu chacun à quelque chose. Et quand on n'en a plus qu'un, eh bien le bras qui reste, il est capable de faire beaucoup plus de choses, n'est-ce pas? Voilà, quand un droitier perd sa main droite, c'est fou comme son bras gauche va devenir capable de faire beaucoup de choses. Voilà. Eh bien, c'est un peu comme ça que je vois la situation d'un parent seul qui, de fait, peut comme compenser, au moins en partie, bien sûr, en partie seulement, il compense ce qui manque dans cette complémentarité entre le père et la mère. Voilà. Alors, donc, et puis, alors, cette sagesse qu'il faut découvrir, peut-être que les années passant, on peut toi-même y arriver progressivement, à vivre une véritable réconciliation parentale, parce que c'est le gage d'une éducation cohérente. C'est une éducation cohérente. On ne peut pas tirer d'un mal un bien. Ça, le Seigneur sait le faire. Pourtant, il y a à trouver dans notre comportement ce qui est porteur d'un mieux. Et cela parce que c'est comme ça qu'on peut prétendre à trouver un bonheur en tout cas, qui, parce qu'on a une situation de souffrance ou d'épreuve à vivre, il y a aussi dans cette même souffrance des choses qui peuvent tout à fait s'améliorer. Voilà, donc je crois beaucoup qu'il faut aider ces familles-là. Elles sont assez nombreuses, je disais qu'elles sont 20% actuellement en France. Peut-être qu'on en aura plus, je ne sais pas, il ne faut pas le souhaiter en tout cas, mais ce n'est pas une fatalité. Et je crois, et j'ai vu des enfants qui ont été très bien élevés par des mamans seules ou des papas seuls. Voilà. Alors donc c'est une affaire de sainteté, c'est une affaire de vertu, c'est une affaire de force qu'il faut savoir trouver là où elle se trouve. Et le Seigneur, je suis certain, redouble de grâce pour toutes ces familles monoparentales. Voilà, eh bien, il reste un peu de temps pour répondre à vos questions, parce que je sais que dans vos propres familles, autour de vous, ce sont vos propres enfants qui très souvent ont été acculés à vivre comme ça, à devenir des parents seuls. Nous parlerons la prochaine fois de ce qui se passe quand on se remarie, où des familles différentes, à ce moment-là, sont constituées, qu'on appelle les familles recomposées. Alors on en parlera la prochaine fois, mais parlons cette fois-ci donc de ces familles qui sont des familles où seul un parent est resté là pour élever les enfants.
Père Michel, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous.
Monique. Bonjour mon père, je vous remercie infiniment de votre prestation qui a vraiment touché mon cœur au plus profond parce que j'ai élevé seule mes deux enfants et c'était à une époque où on ne parlait pas de divorce puisque cela se passait en 1964 et mon mari et moi-même étions enseignants et pendant mon congé de maternité, le deuxième, donc nous avions un petit garçon qui avait déjà 2 ans et j'attendais ma petite fille qui allait naître. Et donc, j'étais en congé de maternité. Et là, une de ses élèves a profité de la situation pour, vous me direz qu'il n'avait pas à se laisser faire. Enfin bref, la situation a été celle-ci. Et il nous a donc abandonnés pour cet élève-là. Ce qui fait que nous avons tous les trois beaucoup, beaucoup souffert. Notre vie a été souffrance, larmes, désespérance, amour trahi, mais accompagné par la prière depuis toujours, parce qu'avec mon mari qui avait été élevé chez les frères, nous prions beaucoup, beaucoup aussi, régulièrement tous les soirs.
Oui.
Bon, ce qui fait que nous avons continué tous les trois à prier beaucoup, 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 et notre désespérance a été suivie à chaque fois, mon père, à chaque fois, des grâces que vous annonciez, de grâces inespérées. De toute notre vie a été ensuite, il a bien fallu se faire à cette situation-là. Comme vous l'avez dit, la maman doit travailler pour deux, c'est ce que j'ai fait. Lorsque j'étais fatiguée, eh bien, je faisais comme si je ne l'étais pas. Et j'ai continué à beaucoup, beaucoup travailler. J'ai continué à dire à mes enfants que le Seigneur, lui, ne nous abandonnerait jamais. Et c'est ce qu'il a fait, puisque mes enfants ont beaucoup souffert. Ça, je le dis, parce qu'en classe, à cette époque-là, il n'y avait pas d'enfants. Moi, je n'ai pas voulu divorcer.
Oui, il y en avait beaucoup moins.
Je n'ai pas voulu divorcer. Au départ, j'ai donc été obligée de demander la séparation, puisque mon mari nous a mis à la porte tous les trois, donc de notre logement. Donc, il a bien fallu partir. J'ai demandé à ce moment-là la séparation pour pouvoir garder le logement. Et je ne voulais pas divorcer, étant donné que j'étais catholique. Et puis après, évidemment, il a rencontré cette personne-là, l'a laissé tomber apparemment, et il a rencontré une autre.
Alors, dites-nous, Monique, dites-nous ce que sont devenus vos enfants. Ils ont quel âge? Ils sont adultes maintenant.
Eh bien, écoutez, maintenant, mon fils a 59 ans.
Ils se sont construits comment dans la vie? Est-ce que vous trouvez que c'est des enfants?
Ils sont construits par le travail et par la prière et le travail, ou le travail et la prière, de façon concomitante, et avec mes parents qui étaient là, heureusement, parce que comme ils avaient 2 ans et puis que ma petite fille venait de naître, et à l'époque il n'y avait pas de maternelle, donc c'était mes parents qui gardaient les enfants pendant que j'étais au lycée. Ce qui fait que dès que je rentrais, je m'occupais de mes enfants, et puis ensuite, mes nuits étaient fort courtes parce que j'avais mes copies à corriger, j'avais mon travail à faire, je suis tombée un petit peu malade, même beaucoup. Le Seigneur m'a remise d'aplomb, j'ai été énormément accompagnée par Marie, Ah oui, bon. J'ai raconté une très belle histoire. Ah oui, oui.
Eh bien, Monique, donc, on va laisser la place à d'autres, peut-être. Monique, merci pour votre témoignage.
Alors, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas désespérer. Le papa, maintenant, est décédé il y a 15 jours. Ils n'ont pas été prévenus. Leur papa ne les a jamais, il n'est jamais venu les voir, sauf les trois premières années.
Donc, il y a eu vraiment une réelle absence. Oui.
À la dame qu'il a épousée, qui n'était pas mariée. Donc, cette personne ne savait pas qu'il avait des enfants. Bon. Ce qui fait que les enfants ne connaissent pas leur père et qui n'ont pas
Ils vont le retrouver au ciel plus tard. Ça va se résoudre au ciel. En tout cas, écoutez, c'est votre attitude que je trouve assez remarquable. Vous avez gardé la prière, vous avez gardé la foi et l'espérance. Et de fait, vous traduisez que, de fait, il y a eu des grâces pour vos enfants, puisque vos enfants, c'est des gens qui se sont maintenant bien construits dans la vie, quand même. C'est ça?
Ah, tout à fait. Ils ont une très belle situation, tous les deux, et mes petits-enfants aussi.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monique.
Merci, mon père. Au revoir.
Merci pour votre beau témoignage qui vient bien illustrer qu'il y a de quoi tirer des bonnes choses de cette situation difficile.
Voilà, merci.
Merci, Monique.
Merci beaucoup, Monique. Alors, rapidement, nous avons reçu un message. Le voici. Bonjour, Radio Maria. Merci au Père Michel-Martin Prével pour l'enseignement. J'ai une question qui ne me concerne pas directement. J'ai une amie, 30 ans, qui a une fille de 7 ans. Elle est séparée du père depuis 5 ans déjà. Aujourd'hui, elle est enceinte d'un homme marié qui lui promet monts et merveilles. Je ne sais pas quoi lui dire pour qu'elle rebrousse chemin. Aidez-moi à lui donner des conseils. Merci beaucoup.
Oui, alors ça, c'est une affaire de discernement. De fait, si vous sentez, vous, et ça peut être, il faut peut-être bien discerner ça, parce qu'elle est enceinte avec un autre enfant, bien sûr, et c'est avec un homme dont il faut être sûr qu'il faut peser le pour et le contre. Si elle s'engage avec cet homme, c'est une bonne chose parce que c'est le père de son enfant. Et donc, c'est quand même, a priori, une chose qui est naturelle et qui est bonne. Maintenant, il faut peser parce que peut-être que il faut peser le bien et le mal. Il faut peser, en tout cas, si être marié avec cet homme va être quelque chose qui va être source de beaucoup plus de dégâts que d'avantages. Voilà. Et donc, c'est une affaire pure de discernement. En tout cas, il ne faut pas qu'elle ait la tentation, ça ne serait pas bien, d'épouser le père de son enfant. Quitte à vivre des choses difficiles, parce qu'elle aurait comme une difficulté à accepter de rester seule. Parce que, encore une fois, c'est un moindre mal, souvent, d'être une mère qui élève mieux ses enfants, peut-être, en étant seule, qu'avec un époux, un compagnon, qui serait complètement à l'envers de ce qu'est la vie conjugale. Et donc, chercher là-dedans le moindre mal, mais ne pas épouser cet homme, en tout cas, parce que rester seul, ça a aussi sa grâce particulière. Il faut qu'elle retrouve aussi de la force à peut-être élever maintenant ses enfants, même sans avoir, comme on dit, un compagnon. Voilà. Parce que il faut peser le pour et le contre. Voilà.
Et d'après ce que je comprends du message, le père du deuxième enfant est déjà marié, donc le mariage n'est pas possible.
Ah, en plus. Ah, voilà. Alors là, le discernement est beaucoup plus vite fait parce qu'il n'est pas question d'aller détruire une autre famille pour en faire une troisième. Ça, c'est toute la question des familles recomposées dont nous allons parler la prochaine fois, qui est effectivement un tissu de complications. Ça, voilà. Alors cherchons en tout cas les solutions simples. Bien sûr, ça c'est certainement comme ça qu'il faut terminer les choses.
Eh bien, merci beaucoup, Père Michel-Martin Prével. Donc on vous retrouve la prochaine fois pour parler des familles recomposées.
Voilà, au revoir à chacun.
Merci, au revoir.